Introduction. L'intelligence collective hyperactive. Fin 2010, Nish Acharya arrive à Washington DC prêt à se mettre au travail. Le président Barack Obama l'a nommé directeur de l'innovation et de l'entrepreneuriat, premier conseiller auprès du secrétaire d'État au commerce. Dans un contexte d'attribution de fonds à hauteur de 100 millions de dollars, on lui a donné pour mission de coordonner les activités de 26 agences fédérales différentes et de plus de 500 universités. Nish Acharya est alors en passe de devenir un acteur majeur typique de Washington DC, smartphone en main, déterminé à recevoir et envoyer des messages à toute heure. Jusqu'à ce que le réseau tombe en panne. Un mardi matin, quelques mois après avoir pris ses fonctions, Acharya reçoit de la part de son directeur technique un email lui annonçant que le réseau de leur agence doit être temporairement coupé à cause d'un virus informatique. On pensait que le problème allait être résolu en quelques jours, a-t-il commenté lorsque je l'ai interrogé à propos de cet incident. Or, ses prédictions se sont révélées très optimistes. Trop. La semaine d'après, une sous-secrétaire d'État au commerce organisa une réunion. Durant celle-ci, elle expliqua que l'on suspectait le virus qui avait infecté leur réseau de provenir d'une puissance étrangère et que le ministère américain de la Sécurité intérieure avait recommandé de ne pas le rétablir tant que l'origine de l'attaque n'aurait pas été déterminée. Par mesure de sécurité, il était également prévu de détruire tous les ordinateurs de bureau et ordinateurs portables et toutes les imprimantes de l'agence, en somme, tout appareil comportant une puce électronique. L'une des conséquences les plus lourdes que cette extinction du réseau a eue sur l'agence fut de la priver de la possibilité de communiquer par email. Sécurité oblige, ses membres avaient interdiction d'utiliser leurs adresses email personnelles pour travailler. Par ailleurs, les affres de la bureaucratie les tenaient empêchés de créer des comptes temporaires utilisables grâce au réseau des autres agences. Acharya et son équipe avait bel et bien été éliminé du match de ping-pong frénétique qui caractérise la plupart des emplois prestigieux au sein du gouvernement fédéral et où le message électronique fait office de balle. La coupure a duré un mois et demi. Sur fond d'humour noir, ils décidèrent d'appeler le premier jour de cette panne le Dark Tuesday. Sans grande surprise, la perte soudaine et inattendue de la messagerie électronique a rendu certains aspects du travail d'Acharya plutôt chaotiques. Dans la mesure où le reste du gouvernement continuait de s'appuyer principalement sur cet outil, il avait souvent peur de rater des réunions ou des demandes importantes. « Il y avait un conduit d'information, explique-t-il, et j'en étais sorti. » La composante administrative s'est également révélée problématique. Le travail d'Acharya impliquait l'organisation de nombreuses réunions, tâche qui était rendue bien plus ardue par l'impossibilité de tout organiser par email. De manière un peu plus surprenante, le travail d'Acharya n'a pas ralenti durant ce mois et demi. Il fut même surpris de constater qu'il travaillait de mieux en mieux. Faute de pouvoir envoyer un email en cas de question, il devait faire l'effort de quitter son bureau pour aller se renseigner directement auprès des personnes concernées. Il avait du mal à organiser ses rendez-vous, aussi s'habitua-t-il à réserver des créneaux plus longs, ce qui lui permit d'apprendre à vraiment connaître les personnes qu'il croisait et à saisir toutes les subtilités des problèmes qu'elles-mêmes rencontraient. Comme l'explique Acharya, ces longues séances se sont avérées très bénéfiques pour certains responsables politiques qui essayaient de saisir toutes les dynamiques complexes du gouvernement fédéral. Le fait de ne pas avoir de boîte de réception à consulter entre les réunions leur offrait des pauses cognitives, ce qu'Acharya appelle des espaces blancs, qui leur permettaient de se plonger plus attentivement dans la littérature scientifique et juridique afférente aux sujets traités par leur agence. Cette approche, plus modérée et raisonnée de la pensée, a fait naître deux idées révolutionnaires qui ont déterminé l'agenda de l'agence d'Acharya pour toute l'année suivante. Dans l'environnement politique de Washington, personne ne s'octroie ce genre d'espace, souligne-t-il. On se contente de regarder son téléphone et de consulter ses emails de manière automatique, et ça nuit à la créativité. M'entretenir avec Acharya à propos du Dark Tuesday et de ses suites m'a fait réaliser que nombre des difficultés qui rendaient cette coupure chaotique pouvaient tout à fait être résolues. Par exemple, Acharya m'a confié que l'anxiété qu'il ressentait à l'idée d'être coupé du réseau s'est principalement manifestée par cette habitude toute simple qu'il avait prise d'appeler la Maison-Blanche tous les jours pour s'informer des rendez-vous prévus. Théoriquement, cet appel aurait pu être passé par un assistant personnel ou par un membre débutant de l'équipe. L'autre problème résidait dans le fait d'organiser les réunions, ce qui, là encore, aurait pu être confié à un assistant ou à une sorte de système de planification automatisé. Autrement dit, il paraissait tout à fait possible de conserver les bénéfices qui avaient été tirés de cette panne de messagerie électronique, tout en évitant les désagréments qui l'accompagnaient. « Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode de travail ?» lui ai-je demandé après avoir expliqué mes solutions. Silence au bout du fil. Mon idée, abandonner définitivement l'email, était d'une absurdité telle qu'Acharya s'était arrêté de penser pendant un instant. La réaction d'Acharya était tout à fait prévisible. Selon une idée reçue qui fait pratiquement l'unanimité au sein des professions intellectuelles, l'email nous a sauvés. Il a transformé les bureaux archaïques à l'ancienne, emplis de secrétaires occupés à griffonner des messages dictés et des notes acheminées par chariot, en quelque chose de plus élégant et efficace. À partir de cette idée, si le courrier électronique et la messagerie instantanée vous dépassent, c'est que vous vous en servez mal. Consultez vos boîtes de réception et traitez vos emails par groupe. Désactivez les notifications et soyez le plus clair possible quant au sujet de vos emails. Si votre boîte de réception déborde, c'est qu'il est peut-être temps de revoir certaines normes à l'échelle de votre organisation, comme les attentes en matière de temps de réponse, par exemple. Cela étant, on ne se permettra jamais de remettre en question la valeur sous-jacente de la communication électronique permanente qui définit le travail moderne. Voilà une réaction qui trahirait un tempérament réactionnaire et nostalgique. Ce serait comme se raccrocher à l'époque des transports en calèche ou de l'éclairage à la bougie. De ce point de vue, l'expérience qu'a vécue Acharya, s'agissant du Dark Tuesday, s'apparente à un désastre. Et si en fait c'était l'inverse? Et si, au lieu de sauver les professions intellectuelles, l'email avait apporté quelques bénéfices négligeables au prix d'un énorme frein à la productivité? Je ne parle pas ici d'affairisme exacerbé, mais de résultats réels, débouchant sur une croissance économique lente au cours des deux dernières décennies. Et si les problèmes que nous rencontrons à cause de ces outils ne provenaient pas de mauvaises habitudes dont on peut facilement changer ou de normes laxistes, mais plutôt de la manière dont ils changent radicalement et de manière inattendue la nature même de nos méthodes de travail? Autrement dit, et si le Dark Tuesday n'était pas une catastrophe, mais plutôt un aperçu de la manière dont les cadres et entrepreneurs les plus créatifs organiseront leur travail dans un futur proche? J'ai passé les 5 dernières années à étudier comme un forcené la manière dont l'email perturbe le travail. L'un des tournants majeurs de cette période a eu lieu en 2016, lorsque j'ai publié un livre intitulé « Deep Work, Rules for Focused Success in a Distracted World », qui s'est étonnamment bien vendu. Dans cet ouvrage, j'avance que l'économie du savoir néglige la concentration. Même s'il est utile de pouvoir communiquer par message électronique, les interruptions fréquentes engendrées par ce type de communication nuisent à la concentration, ce qui a un impact bien plus important que ce que l'on avait estimé sur notre capacité à produire de la valeur. Dans Deep Work, je n'ai pas cherché longtemps à savoir pourquoi l'on se retrouvait submergé par nos boîtes de réception, ni n'ai proposé de changement à l'échelle globale. J'avais toujours pensé que ce problème était en majeure partie dû à un manque d'informations. J'en ai conclu que dès lors que les organisations prenaient conscience de l'importance de la concentration, elles étaient tout à fait à même d'adapter leurs activités de façon à faire de la concentration une priorité. Puis, j'ai pris conscience de ma naïveté. Alors que je faisais des tournées à travers le pays, que je tenais des conférences à propos de mon livre, à l'occasion desquelles je rencontrais à la fois des cadres et des employés, et que j'alimentais mon blog ainsi que les colonnes de journaux tels que The New York Times et The New Yorker, j'ai constaté que l'idée que l'on avait du secteur des connaissances était à la fois plus nuancée et moins bien fondée. La communication permanente n'entrave pas le véritable travail, bien au contraire. Elle fait partie intégrante du processus d'accomplissement de ce travail, en ce sens qu'elle réduit à néant les petits efforts de réduction de la distraction par l'intégration de bonnes pratiques ou les pirouettes managériales à court terme comme le vendredi sans email. Dans l'optique d'une amélioration tangible, la nécessité d'un changement profond de l'organisation de nos activités professionnelles est devenue évidente. On s'est également rendu compte qu'il fallait intégrer ces changements au plus vite. Alors qu'elle apparaissait dans les années 2000 comme un problème à la mode, la surdose d'email a pris un tournant bien plus dramatique qui voit de nombreux utilisateurs atteindre la masse critique et leur productivité réelle être confinée aux premières ou aux dernières heures de la journée, voire au week-end, parce que leurs journées de travail se sont muées en batailles sisyphéennes contre la boîte de réception,